Ça vaut le détour.
Bonjour, bienvenue à Ça vaut le détour, édition du mercredi 18 mai 2016. Bonjour, ici Maxime Despomerleau, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition de Ça vaut le détour, notre dernière émission si vous nous écoutez en direct pour la semaine, car nous sommes là les lundis, mardis et mercredis midi. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le mot-clic CVLD ou sur Twitter, @canal_m. Vous pouvez commenter sur l'actualité ou réagir aux propos de nos invités. Aujourd'hui, on parle des journées Accès Découverte qui ont débuté à Montréal en 2013. Organisées par onroule.org et aidées de Vie Autonome Montréal, le concept est une marche exploratoire où des groupes de participants en situation de handicap répertorient et évaluent l'accessibilité des commerces sur des grandes artères. Catherine Blanchette-Dallaire, fondatrice de Onroule, sera dans nos studios pour nous parler des prochaines marches qui auront lieu au mois de juin. Elle sera avec nous à 12h45. Notre série sur les camps d'été adaptés se poursuit avec la chronique mensuelle de la Fondation des aveugles du Québec. En deuxième partie d'émission, Sarah Rouleau, relationniste et responsable des bénévoles, viendra nous parler des camps de jour et des camps de vacances offerts par la Fondation. L'adaptation d'un logement peut être une opération longue et coûteuse, surtout si notre seule ressource est celle du programme d'adaptation à domicile. Heureusement, la Fondation Adapte-toi permet l'adaptation du logis, même si on n'a pas accès à des subventions. On parle avec Julien Racicot, fondateur de Adapte-toi, qui soutient les blessés médulaires qui doivent adapter leur logement. Et 13 mai dernier, c'était vendredi 13, mais la journée a porté chance à au moins quelques personnes, notamment les familles représentées par Parents jusqu'au bout. On fait un retour sur l'annonce faite vendredi dernier par les ministres Lucie Charlebois, Gaétan Barrette et Sébastien Proulx sur l'aide financière apportée aux parents d'enfants lourdement handicapés. Je joins au téléphone Mme Anouk Lanouette-Turgeon du mouvement Parents jusqu'au bout. Bonjour.
Bonjour.
Donc, c'est une bonne nouvelle qu'on a eue le 13 mai dernier. Est-ce que d'abord, vous pouvez nous faire un résumé de quelles étaient vos demandes auprès du gouvernement et ce qui a été répondu?
Ben, en fait, notre principale demande était d'obtenir l'équité avec les familles d'accueil. Parce que, bon, comme on sait, ou en tout cas, comme on répète depuis plus d'un an maintenant, c'est l'écart qui était pour nous inacceptable entre la situation d'une famille d'accueil qui va accueillir un enfant handicapé. Selon le niveau de soins requis par l'enfant, évidemment, il y a différentes lourdeurs de handicap, si on peut dire, mais une famille d'accueil pouvait recevoir jusqu'à 37 000 $ par année pour s'occuper d'un enfant, dans ce cas-là, très lourdement handicapé. Mm-hmm. Beaucoup de familles d'accueil ne reçoivent pas cette somme, évidemment, ça c'est le maximum. Mais donc nous, à la base, on reçoit des deux paliers, des deux ordres de gouvernement, on reçoit 4 000 quelques dollars. On reçoit aussi de l'aide par le CLSC qui peut être très, très variable selon les régions. Bref, en tout cas, le gouvernement a étudié vraiment la comparaison entre notre situation en tant que famille naturelle d'un enfant lourdement handicapé et les familles d'accueil. Ils ont produit un beau tableau dans lequel on a deux colonnes de chiffres. Vraiment, ça compare les deux situations. Et la nouvelle qui a été annoncé vendredi, c'est qu'en fait, ils veulent combler cet écart-là. Donc, vraiment, ça fait en sorte qu'on obtienne l'équité réellement avec ce qu'on appelle les familles d'accueil ou les ressources intermédiaires, les ressources de type familial.
Mm-hmm. Les chiffres qu'on a vus dans les médias jusqu'à présent parlent d'un écart qui est de l'ordre d'autour de 12 000 $. Ouais. On parle d'une moyenne et on parle aussi donc de... En fait, de montants d'argent non imposable et de services. Donc, il y a des familles qui vont recevoir différents montants.
Oui, bien, en fait, ça reste. Les modalités du programme ainsi que les critères d'admissibilité restent à connaître. Donc, nous, on n'a pas davantage d'informations que effectivement ce qui a déjà été diffusé dans les médias. En fait, vendredi, on a rencontré les ministres, donc ils nous ont présenté la chose là, directement. Mais ça va rester à vérifier parce que nous, déjà, le tableau, je l'ai devant les yeux, là. Il y a déjà certains montants dont je sais que les familles reçoivent pas même ces montants-là, qu'on est déjà supposé recevoir. Donc, la première étape, ça serait au moins que les familles obtiennent ce qu'on est déjà supposé d'avoir. Mm-hmm. Après ça, on peut parler de combler l'écart, mais il faudrait commencer par le début. Parce que, bon, par exemple, dans le tableau, on dit que il y a un montant d'aide sociale qui est touché par les familles comme les nôtres pour contraintes temporaires à l'emploi. Aucune idée de quoi on parle, j'ai jamais eu droit à ça. Je connais aucune famille qui a eu droit à ça. Donc, on va, disons, faire quelques rectifications, premièrement, parce que si, justement, on enlève ce montant-là, ben tout d'un coup, l'aide qui nous sera accordée serait plutôt de l'ordre de 14 000 $ au lieu de 12 000. Donc, il y a certains montants dont il va falloir discuter ou en tout cas vraiment demander de quelle source ils tiennent cette information-là, parce que nous, à notre connaissance, c'est pas les sommes qui sont répertoriées ici, on n'y a déjà pas droit, on n'a pas droit à tout, là. Donc, il faudrait commencer par s'assurer. Ça serait ça la première étape, disons, s'assurer qu'on a accès à ça en premier.
Il y a effectivement des clarifications à amener au sein même du programme avant de regarder quelles seront les bonifications. On parle de critères d'admissibilité. Les détails sont pas encore connus, mais on parle vraiment d'enfants lourdement handicapés. Quels sont les spécialistes qui ont été consultés ou qui seront consultés pour établir les critères d'admissibilité?
En fait, nous, on n'a pas les noms là, des spécialistes, mais on sait que c'est des médecins, vraiment, des hôpitaux pédiatriques de Montréal, entre autres, là, donc Sainte-Justine et l'hôpital pour enfants, qui ont été mobilisés, qui ont été vraiment mandatés, consultés pour établir la définition. Donc, des médecins comme tels et aussi d'autres professionnels de la santé. Donc, c'est certain que c'est pas les fonctionnaires là, qui vont établir cette définition-là. C'est vraiment des médecins qui travaillent vraiment avec nos enfants, qui connaissent les situations de nos familles. Mm-hmm. Le libellé, en fait, le titre officiel là, du comité interministériel, c'était sur la situation des enfants qui présentent des incapacités très importantes ou qui sont gravement malades. Donc, c'est ça, parce que, bon, là, on a aussi des parents qui nous disent « Ah, mais si le handicap de mon enfant n'est pas visible, est-ce qu'il va être reconnu? » Bon, on ne peut pas répondre à toutes ces questions-là pour l'instant, mais ce qu'on peut dire, c'est que l'enfant va devoir présenter plusieurs incapacités, disons. Disons, la déficience intellectuelle n'est pas une obligation, mais bon, ça peut en faire partie. Le fait d'être en fauteuil roulant n'est pas non plus une obligation, mais ça peut en faire partie. Bon, il va y avoir toute une série de critères, puis après, évidemment, il va y avoir des gens qui vont se sentir exclus, il va y avoir d'autres combats à mener peut-être pour une reconnaissance plus équitable de ces groupes-là aussi. Nous, on a commencé par la situation de nos familles à nous, parce que en se regroupant, nous, on avait certains points en commun, donc on a commencé les revendications pour ce petit groupe-là de familles, en ne nous doutant pas au départ de l'ampleur que le mouvement allait prendre. Là, vraiment, il y a des gens des parents d'enfants handicapés de toutes sortes de niveaux d'handicap qui comptent sur nous, mais on peut pas mener tous les combats en même temps, là, malheureusement.
Madame Lanouette-Turgeon, si vous permettez, j'aimerais qu'on prenne un exemple de votre famille pour illustrer un peu justement quel type d'enfant on vient, en fait, quel type de situation on vient soutenir. Vous avez deux enfants, votre aîné et un garçon qui vit avec la trisomie 21 et votre fille est née avec une maladie très rare, une maladie orpheline qui donc occasionne beaucoup de soins de santé que vous devez lui promulguer. Et c'est particulièrement le cas de votre cadette, en fait, qu'on va venir soutenir.
Ben oui, c'est ça. Moi, selon mon évaluation à moi, mon premier enfant qui est atteint de trisomie 21 ne se qualifierait pas comme étant lourdement handicapé ou gravement malade. C'est un enfant qui va très bien, qui a un retard global de développement, qui a une déficience intellectuelle, oui, et qui a des suivis supplémentaires quand même. À mon sens, à moi, dans mon quotidien à moi, c'est pas, je considère pas que c'est très lourd. Mm-hmm. Par contre, ma fille, elle a vraiment une atteinte neurologique très grave qui fait qu'elle a à peu près aucun développement, à peu près aucun acquis au niveau moteur. C'est certain qu'elle va être en fauteuil adapté toute sa vie, qu'elle marchera pas, qu'elle parlera pas, elle est gavée, elle ne voit pas, elle a une cécité corticale en fait, là, donc on sait pas qu'est-ce qu'elle voit. Elle voit peut-être un peu, mais vraiment, elle réagit à rien là, au niveau visuel. Elle fait de l'épilepsie et c'est ça. Elle a aucune autonomie, puis rien ne nous laisse croire qu'elle va pouvoir en avoir la moindre. Donc, ça demande des soins quotidiens au niveau des gavages, entre autres, la surveillance des crises d'épilepsie, de tout ça, mais ça va demander aussi, chose qu'on n'a pas encore réussi à faire, une adaptation de domicile, de véhicule. Ça, c'est vraiment, c'est des dizaines de milliers de dollars, là. C'est certain que on va pas y arriver tout seul, là. C'est impossible. D'autant plus qu'évidemment, moi, je travaille beaucoup moins d'heures qu'avant. C'est ça, en fait. La situation de nos familles, en général, c'est ça. C'est qu'on se retrouve avec des frais vraiment supplémentaires, considérables. En plus de devoir couper nos heures où beaucoup de parents doivent carrément abandonner leur emploi. Moi, j'ai réussi à le maintenir, mais à temps partiel. Donc, je fais, mettons, environ 15 000 $ de moins par année qu'avant. Et j'ai des frais que j'ai pas évalués là, précisément, mais qui sont vraiment supérieurs à ce que j'aurais pour un enfant régulier.
Tout à fait. Justement, dans notre entrevue du 30 mars, dans notre émission du 30 mars, on avait discuté ensemble de cette problématique, de cet enjeu important que lorsque les soins requis par un enfant imposent que l'un des parents abandonne son emploi, c'était souvent la mère qui cessait de travailler. Est-ce que la nouvelle mesure va aider les parents à ce niveau, au niveau de l'emploi?
Bien, au niveau de l'emploi, pas comme tel, en fait. La nouvelle mesure, ce que j'en comprends, c'est que ça va être des suppléments. C'est pas un nouveau programme qui est créé comme tel. Donc, on n'aura pas un nouveau chèque dans le cadre d'un nouveau programme. Ça va être des suppléments au programme qui existe déjà. Donc, par exemple, le supplément pour enfants handicapés, bon, on reçoit 189 $ par mois en ce moment. Donc là, quelle que soit la lourdeur du handicap de l'enfant, quel que soit le revenu familial. Donc, possiblement, on va recevoir plus. Bon, ça peut aussi être une augmentation des services, parce que, par exemple, justement, le soutien à domicile, dans certaines régions, c'est zéro, là. C'est nul. Moi, j'ai eu la chance d'habiter dans un secteur Villerie-Petite-Patrie, pour ne pas le nommer, où apparemment, le CLSC est un peu mieux nanti que dans d'autres endroits. Donc, moi, j'ai droit pour ma fille à 28 heures par semaine dans le cadre du programme le chèque emploi-service. Mais je connais des familles qui ont des enfants aussi lourdement handicapés que ma fille, qui ont 4 heures de chèque emploi-service par semaine ou zéro. Donc ça, c'est pas acceptable, ça peut pas rester comme ça, là. Donc c'est certain qu'il faut d'abord commencer par équilibrer, entre autres, les services entre les régions, puis après voir effectivement combien ça va donner en aide financière. Parce que c'est ça aussi dont on a besoin. On n'a pas juste besoin de gens qui viennent nous aider à domicile. Bon, oui, là, mais c'est surtout la perte de revenus, en fait, qui nous met dans des situations très précaires. Donc, j'ai hâte de connaître, là, exactement combien ça donne en argent.
Justement, cette mesure va entrer en vigueur en septembre. On annonçait que c'était rétroactif, bon, jusqu'au 1er avril 2016. Avez-vous des craintes d'ici là? Avez-vous des craintes qu'on fasse marche arrière sur différentes annonces qui ont été faites? Ou au contraire, on sait déjà que c'est confirmé, que les acteurs se mettent en branle pour pouvoir soutenir les familles? Comment ça se passe?
Bien, nous, premièrement, on reste en contact avec eux. On ne fait pas juste leur dire « OK, salut, on se revoit en septembre ». Je veux dire, on reste en contact, on va surveiller de près les développements. Puis, moi, je suis confiante quand même parce qu'ils nous ont assuré que c'est déjà entériné par le Conseil des ministres. C'est canné, comme on dit, là, ça peut pas, ils peuvent pas revenir en arrière. C'est vraiment un engagement clair et confirmé. Mais, vraiment, justement, les modalités, les détails de certains chiffres, tout ça, le travail est pas fini non plus. Donc, il faut pas lâcher prise, là. Il faut pas complètement dire, OK, tout est beau, tout est réglé. Mm-hmm. Mais j'ai quand même confiance. Je veux garder cette confiance que ça, au moins, c'est confirmé. Puis, il reste juste à revoir les détails, disons, là.
Oui, En terminant, cette annonce a quand même fait suite. Ça a pris quelques semaines avant d'avoir quelque chose de concret à se mettre sous la dent. Mais elle a fait suite, entre autres, à votre passage à Tout le monde en parle, à l'émission du 14 mars, qui était en même temps que le ministre de la Santé, Gaétan Barrette. J'aimerais qu'on termine avec ce segment. Je crois que ça a beaucoup de poids. Avez-vous remarqué si votre passage à une émission qui est aussi regardée que tout le monde en parle, votre présence sur les médias sociaux qui est très importante, que vous rejoignez facilement la population à ce niveau-là, est-ce que vous avez trouvé que ça a aidé à accélérer ce mouvement-là? Est-ce que vos demandes ont peut-être été entendues plus rapidement grâce à ça?
Ben, je pense que oui, en fait, c'est clair. Parce que si on n'avait pas été sur le plateau en même temps que Gaétan Barrette, je pense pas qu'on aurait réussi à le rencontrer.
Avant-là, c'était un beau hasard.
Ben, c'était pas un hasard. C'était complètement prévu par l'équipe de Tout le monde en parle, de nous mettre sur le plateau en même temps que lui. En fait, donc, ça faisait très longtemps que Tout le monde en parle voulait nous inviter. On les avait déjà approchés comme à la fin de la saison précédente. Ils avaient dit oui, on voudrait vous inviter. On peut pas, il reste juste 3 émissions. En tout cas, peu importe les détails, mais ils nous avaient gardé en tête. Puis là, à ce moment-là, il y avait eu plusieurs reportages en cascade dans les médias, Journal de Montréal, TVA-LCN, peu importe, là, sur une famille, entre autres, en Estrie, d'enfants lourdement handicapés. Il y avait comme un intérêt médiatique vraiment comme bouillonnant, là. Donc, là, ils ont jugé que c'était le bon moment pour nous faire venir sur le plateau et Gaétan Barrette était là et ce n'était pas du tout un hasard, justement. Donc, oui, ça a fait avancer les choses. Je pense que déjà, il y avait un comité qui était en place, justement, sauf que ça aurait pu prendre des années. Et là, au lieu de prendre des années, tout d'un coup, ça a pris quelques semaines. Donc, clairement, ça a fait une différence, c'est sûr.
Est-ce que la population est plus informée de vos situations, de ce que vous vivez? Avez-vous remarqué ça?
Oui, je pense que oui, parce qu'il y a des gens de la population générale qui ont eux-mêmes aucun contact avec des enfants handicapés qui nous en parlent ou qui, dans certains cas, qui disent « Ah oui, parents jusqu'au bout, bon, ils connaissent le nom, ils connaissent davantage nos situations. Ça a clairement... Je pense que l'offensive de sensibilisation de la population a fonctionné, vraiment.
Anouk Lanouette-Turgeon, on est très heureux de voir que ça a débloqué rapidement. Félicitations pour cette petite victoire du mouvement Parents jusqu'au bout. On suppose que vous allez garder un œil ouvert sur ce dossier d'ici septembre et on sera ravis de suivre les développements à vos côtés. Merci de nous avoir parlé aujourd'hui.
Merci beaucoup pour votre intérêt pour la cause. Et oui, on reste sur le dossier, sans faute.
Merci, au revoir.
OK, au revoir.
Tout juste de l'évoquer avec notre invitée précédente, l'importance aussi non seulement d'un certain soutien, mais de l'adaptation. L'adaptation de voiture, mais l'adaptation à domicile est très importante. Lorsqu'on devient handicapé suite à une forme d'accident, on aura du soutien financier pour adapter notre logement, mais l'aide est souvent limitée. Heureusement, il y a des gens comme Julien Racicot de la Fondation Adapte-toi qui peuvent soutenir les personnes dans cette situation. Bonjour, M. Racicot.
Bonjour, Mme Pomerleau.
Quand avez-vous créé la Fondation Adapte-toi?
La Fondation Adapte-toi, c'est un projet que je caressais depuis déjà plusieurs années, étant moi-même tétraplégique suite à un accident d'auto. Et lorsque j'étais en centre d'adaptation, je constatais là, à quel point plusieurs personnes avaient des besoins importants qui n'étaient pas comblés. Et plus récemment, il y a 2 ans environ, j'ai décidé de me pencher plus sur le problème. J'ai travaillé un peu à temps perdu à développer la fondation. Et depuis l'été dernier, j'ai monté le conseil d'administration. On a développé toute une équipe et la fondation Adapte-toi a vu le jour officiellement au début de l'année 2016. Donc, depuis 2016, là, on commence à travailler plus plus précisément là, sur des dossiers liés à la lésion médulaire.
Justement, c'est donc tout nouveau dans notre paysage, la Fondation Adapte-toi. Vous aviez remarqué justement que quelqu'un comme vous qui a eu un accident de voiture a droit à davantage de soutien que quelqu'un qui s'est blessé suite à un plongeon dans une piscine, par exemple.
Bon, oui, tout à fait. Parce que étant accidenté de la route, on a un agent payeur, comme on appelle dans le milieu, qui se trouve être un assureur privé qui va couvrir une bonne partie des besoins liés à l'adaptation du domicile et pour l'achat d'équipement. En dehors des accidents de la route ou des accidents du travail, il n'y a à peu près pas de soutien financier qui est offert, autre que le programme PAD, qu'on connaît un peu, qui est le programme d'adaptation de domicile, qui est offert en collaboration avec la SCHL et la SHQ ici au Québec, et qui offre un certain soutien financier pour l'adaptation de domicile. Mais encore là, les délais sont très longs. Mm-hmm. On parle jusqu'à 2 ans de délai, des fois, en attente là, pour avant que les travaux puissent débuter, que l'argent, les fonds soient débloqués. Et en plus de ça, cette aide-là est très limitée. On parle de 16 000 à 21 000 $ au gros maximum dans certaines exceptions. Donc, dans plusieurs des cas, là, cette aide-là n'est pas suffisante. Et c'est là que la Fondation Adapte-toi intervient.
Quelle démarche est-ce qu'on peut faire auprès de vous et comment est-ce que vous intervenez? Est-ce que c'est plus au niveau de fournir des appareils ou ça va être au niveau financier pour venir justement s'ajouter au programme PAD et permettre une meilleure adaptation du logis?
Bien, c'est ça. Comme vous l'avez mentionné, nous, on intervient vraiment en complément au programme PAD ou aux autres soutiens qui sont offerts là, par les différents organismes. On ne veut pas pallier à l'aide qui est déjà offerte. On veut devenir une aide supplémentaire et on intervient à 2 niveaux. Premier niveau, c'est vraiment lié à l'adaptation de domicile. Donc, ça pourrait être pour l'installation d'une rampe d'accès, d'un ascenseur, des ouvre-portes, l'élargissement des cartes de porte, toutes sortes d'adaptations qui doivent être faites là, pour les personnes qui se retrouvent en fauteuil roulant. Et l'autre facette où on intervient, c'est pour l'aide à domicile. Encore là, on ne vient pas pallier à l'aide qui était déjà offerte via les CLSC, mais on sait que bon, il y a plusieurs coupures et l'aide actuelle est nettement insuffisante. Donc nous, selon les besoins, on peut offrir une enveloppe budgétaire supplémentaire afin de permettre aux gens d'avoir plus d'aide à domicile, toujours dans l'objectif de permettre aux personnes lésées médulaires de récupérer le maximum d'autonomie et de vivre dans un milieu accessible et adapté en fonction vraiment de leurs besoins.
Tout à fait, en sachant aussi que l'option de vivre chez soi est souvent la meilleure considérée par rapport à aller dans un établissement plutôt de santé. Monsieur Racicot, comment on reçoit cette aide? Est-ce qu'il y a des critères spéciaux? Est-ce que vous desservez toutes les régions du Québec?
Comme on l'a mentionné un petit peu plus tôt, on est en démarrage. Notre objectif, évidemment, est de desservir tous ceux qui ont besoin de notre aide dans la grande région du Québec. Et oui, on prend toutes les demandes des citoyens du Québec. Les demandes sont évaluées par le comité d'évaluation des demandes et d'octroi des dons. On a des critères spécifiques. On est en train de finaliser le développement de toute la documentation. Chaque demande est évaluée en fonction de notre grille de pondération. Et c'est ça, toutes les demandes sont évaluées là, de façon équitable et égale.
Mm-hmm. Avez-vous déjà commencé à recevoir des dossiers?
Oui. Le besoin est assez criant, je vous dirais. On travaille dans un dossier en particulier. C'est le dossier de Mme Baudry. On a eu quelques autres demandes. Malheureusement, pour l'instant, que je leur mentionne à nouveau, là, mais on est vraiment en démarrage et en développement. Donc, on peut pas encore intervenir dans tous les dossiers. Mais dans un avenir rapproché, là, on souhaite pouvoir répondre vraiment à la demande. Et c'est ça. Actuellement, on est plutôt on met beaucoup d'efforts sur le développement de la structure et aussi pour aller chercher des commanditaires, des partenaires pour avoir le maximum de fonds pour pouvoir réaliser notre mission principale qui est d'aider les personnes en situation d'handicap qui ont besoin d'adaptation domicile et pour maximiser l'accessibilité et leur autonomie aussi.
Mm-hmm. Votre site propose d'ailleurs diverses façons de contribuer à la mission de la Fondation.
Oui, tout à fait. Parce que, bon, on sait qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent faire des dons en argent, mais il y a d'autres personnes aussi qui veulent contribuer plus directement. Donc, les gens peuvent s'impliquer de façon bénévole dans nos différentes activités. Ils peuvent également nous faire don de certains équipements dont ils en font plus usage et dont ils n'utilisent plus. Il y a également la possibilité de développer des événements pour justement ramasser des dons pour soutenir la Fondation. Donc, il y a plusieurs façons de contribuer à la Fondation Adapte-toi et d'aider à faire vraiment une différence chez les blessés médulaires ou plutôt les personnes en situation d'handicap là, suite à une lésion médulaire. Mm-hmm. Et toutes ces façons-là sont détaillées sur notre site Internet.
Justement, je vous invite à nous donner l'adresse du site Internet parce que Adapte-toi, quand on l'entend, ça peut sembler toi, T-O-I, mais c'est plutôt toi, T-O-I-T.
Oui, exactement. Ben, en fait, c'est un petit jeu de mots pour Adapte-toi, toi en tant que personne, mais aussi toi en tant que toi de domicile parce que, à mon avis, à notre avis, là, toute l'équipe de la Fondation, on croit qu'en ailleurs, en demeurant dans un domicile adapté en fonction de notre situation, puis ça nous permet de nous adapter nous-mêmes en tant que personne à notre nouvelle condition physique et de refaire notre vie de façon...
Pour le meilleur.
Ben oui, c'est ça, exactement.
Merci
donc,
beaucoup.
Je peux vous donner le site de la Fondation.
On va le mettre aussi sur notre site web. Je vais le dire très rapidement, c'est fondationadaptetoi.org. Merci beaucoup, Julien Racicot. Merci, c'est signe que votre présence est nécessaire. Merci d'aider ces gens et on vous souhaite vraiment un très bon démarrage de cette Fondation Adapte-toi.
Bien, merci beaucoup. Bonne journée.
De retour à Ça vaut le détour avec Maxime Despomerleau.
Toujours à Ça vaut le détour. Je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux en utilisant le mot-clé CVLD et sur Twitter, @canal_m. Donc, on entame notre seconde partie d'émission, notre dernier tour de table aussi pour la Fondation des aveugles du Québec qui nous a présenté une chronique mensuelle tout au long de la saison. On se dirige, Sarah Rouleau, relationniste et responsable des bénévoles, bonjour.
Bonjour.
On se dirige pour cette dernière chronique vers l'été.
Oui,
qui quand même, on pense qu'il va arriver. normalement, il ne devrait pas prendre congé cette année, à moins qu'il nous offre 6 mois l'année prochaine.
Ah, ben j'aimerais bien en avoir tout de suite.
Mais je pense qu'on aimerait bien en avoir un encore cette année, en 2016. Donc, cet été, en fait, on va parler de la formule des camps d'été offerts par la Fondation des aveugles du Québec.
Ben oui, exactement. Comme tu l'as dit, le beau temps s'en vient. Donc, c'était à propos. Et aussi, ben, comme j'en ai parlé au cours des dernières semaines, le service de loisirs, c'est un de nos plus gros service à la Fondation. Et puisque nos inscriptions sont commencées, j'ai vraiment choisi de vous présenter toutes les activités qu'on allait offrir cet été aux jeunes qui ont une déficience visuelle de 6 à 25 ans.
6 à 25 ans, donc on suppose que ce ne sont pas les groupes qui... On ne retrouve pas dans le même groupe un enfant de 6 ans et un jeune adulte de 25 ans.
Non, exactement. Depuis quelques années, dans les camps de jour, ils sont ensemble parce qu'on n'avait pas assez d'inscriptions, mais on essaie quand même de faire des activités qui plaisent à tous. Mais pour les camps de vacances, c'est vraiment là, séparé. En fait, la majorité, normalement, dans notre service de loisirs, il y a les 6 à 12 ans et les 13 à 25 ans.
On parle de camp de jour, de camp de vacances. Quelle est la différence et qu'est-ce que vous offrez plus spécifiquement?
Oui. Bien, dans le fond, nous, notre été va vraiment être alterné entre camp de jour et camp de vacances. Donc, on offre 4 semaines de chaque, mais une semaine de camp de jour, une semaine de camp de vacances, une semaine de camp de jour, une semaine de camp de vacances. Et les camps de jour se déroulent à Montréal dans notre salle communautaire. Les enfants vont rester là la journée, mais retournent à la maison le soir. Et il va y avoir beaucoup d'animations et d'activités qui sont faites par nos moniteurs. On va avoir des journées thématiques. Des fois, ça va être plus sportif. Des fois, on va avoir des activités de musique. D'autres fois, des sorties, mais souvent plus proches de notre salle communautaire. Donc, souvent, ça va être en ville. On peut penser à une sortie là, à Voile en voile qui est dans le Vieux-Port, une sortie au festival de jazz, de l'escalade à Horizon Rock, etc. Donc ça, ce sont les camps de jour. Et les camps de vacances, là, les enfants, ils partent pour la semaine. Donc, ils dorment pas, ils dorment avec nous. Ils dorment à la colonie de vacances. Et on visite différents camps de la province. Donc, on visite des camps qui existent déjà, mais nos moniteurs sont présents avec les jeunes pour rendre l'expérience plus adaptée, disons. Et là, ça va être plus du plein air. Donc, on va faire du camping, du kayak, de la baignade, des randonnées, du tir à l'arc, du rafting. Donc, ça va être vraiment beaucoup plus à l'extérieur et c'est vraiment toute la semaine. Puis ensuite, ben c'est ça. Comme je disais, les camps de jour, là, c'est tout le monde ensemble. Sinon, les camps de vacances, les jeunes et les ados ne font pas les mêmes camps.
Ces camps de vacances, donc, si je veux juste bien comprendre, vous greffez, si on veut, à d'autres camps qui existent déjà à travers la province.
Oui, exactement. Ben, en fait, il y a beaucoup de camps de vacances, de colonies de vacances qui font ça. C'est qu'ils accueillent les groupes. Ben, nous, notre groupe, on vient, mais on a un ratio de 1 pour 3. Donc, avec nos jeunes, il y a nos moniteurs qui viennent. Et souvent, ben, il va y avoir l'animateur de la place qui anime sa journée, etc. Mais nous, on a nos moniteurs aussi qui animent par-dessus pour rendre le tout accessible, pour que ça soit plus intéressant pour nos jeunes, que ça soit plus vivant. Puis de toute façon, bien, pour le déplacement, comme nos moniteurs jouent un peu le rôle des yeux, bien, ils ont besoin d'être là. Donc, ils sont là en tout temps avec eux. Et oui, excuse-moi.
Mais est-ce que ça permet aux jeunes de vos camps d'être en contact aussi avec d'autres jeunes qui n'ont pas de déficience visuelle? Est-ce qu'on permet un... Est-ce que ça facilite peut-être des échanges ou un...
Bien, c'est sûr que...
Plus ou moins, on va vraiment se fier sur les activités adaptées, vraiment.
Bien, en fait, ils vont faire toutes les activités. C'est juste que la présence des moniteurs vont leur permettre de vivre comme les autres de leur âge, de faire, comme j'ai dit, le rafting, etc. Mais c'est sûr que notre groupe, puis c'est quand même un avantage, c'est qu'ils sont entre eux. Donc, avec des gens qui ont la même différence qu'eux, qui ont le même handicap. Donc, ils ne se jugent pas là-dessus. Et là, ils vont pouvoir développer d'autres habiletés ou se faire apprécier pour autre chose sans qu'on parle toujours de leur handicap visuel. Mm-hmm. Mais c'est sûr qu'ils rencontrent des gens là, pendant les camps de vacances, etc. Ils rencontrent les moniteurs, ils rencontrent d'autres jeunes. Mais le groupe reste notre groupe.
Le groupe est le plus soudé.
Oui, exact.
Quel camp offre des activités vraiment particulières au niveau du plein air? On a évoqué quand même le rafting. Bon, il doit y avoir des balades en forêt. Le tir à l'arc. Vous avez quand même pas peur d'avoir des activités même un peu extrêmes. Je suis même pas sûre que moi, je me risquerais à faire ce type d'activité.
Bien, on fait de tout. Notre but, c'est vraiment qu'ils puissent vivre comme les autres de leur âge, donc de faire de tout. Puis on va les pousser à se dépasser. Donc, c'est pour ça qu'on fait même du rafting. Puis nos jeunes, souvent, aiment plus les activités dans ce genre-là. Parce que, bien, justement, à défaut d'avoir la vue, ils vont avoir les sensations fortes. Donc, souvent, on va amener des activités avec des sensations fortes pour les combler. Cet été, bien, on va à différents camps. On va aller au camp Maris à Rawdon. On va aller au centre villégiature de Jouvence dans le coin d'Orford, au camp Petit Bonheur dans les Laurentides, au camp Richelieu à Saint-Côme, Utopia dans le parc du Bic. On va faire une escapade d'une semaine dans la région de Québec. Comme tu l'as dit, le rafting, ça va être à Grenville. Fait que dans le fond, on veut leur faire essayer plein de choses, mais aussi on veut visiter plusieurs régions. Un, parce que c'est le fun d'avoir le goût du voyage, mais aussi parce que, bien que notre clientèle soit surtout située à Montréal, on veut que ceux en région aient accès à nos activités. Fait qu'on essaie de visiter différentes régions pour qu'un enfant de là-bas, par exemple, puisse se joindre à nous pour la semaine.
Tout à fait. C'est pour faciliter aussi cet accès-là à ces activités dans différentes régions, qui est donc au moins, au minimum, une fois par été.
C'est parce ça, que au moins une belle semaine.
les camps changent d'endroit. Sarah Rouleau, est-ce que les moniteurs ont une formation particulière?
Oui, mais nos moniteurs, ils ont une formation d'une semaine avant le début des camps. Donc, ils vont faire de l'orientation et mobilité pour savoir bien guider. Ils vont faire un cours d'RCR, mais aussi des cours d'animation, bien entendu, puisque j'ai dit tantôt que c'est important, l'animation. Et ils vont aussi savoir comment adapter, par exemple, soit les activités ou le bricolage qu'on fait avec nos jeunes. Donc, on est vraiment comme le seul service de loisirs à offrir des moniteurs qui sont spécialement formés pour les personnes qui ont une déficience visuelle.
Combien d'animateurs au total ça représente? On l'a dit que c'était un ratio de un moniteur pour trois jeunes. C'est combien de moniteurs à travers l'été?
Bien, souvent, nos groupes sont de 10 à 15. Donc, il y a souvent 7 moniteurs, 5-7 moniteurs. Des fois, c'est des moniteurs avec des bénévoles. Mais oui, souvent, c'est la moitié de nos jeunes. Donc, quand on fait une activité, bien, il nous faut des places pour les jeunes, mais des places aussi là, pour les moniteurs. Puis aussi, ils jouent plusieurs rôles, en fait, nos moniteurs. Tantôt, on a parlé d'améliorer l'activité pour la rendre plus vivante pour notre clientèle. Ils vont aussi assurer la sécurité, guider, être les yeux, dans le fond, pour leur permettre de faire tout ce qu'il y aurait s'ils auraient la vision. Mais aussi, c'est un peu... ils développent une relation très particulière avec nos jeunes, surtout en camp de vacances. Là. On est une semaine ensemble, donc ils deviennent plus intimes. Ils se confient beaucoup, posent demandent des questions, demandent des conseils. Donc, les mentors viennent jouer un rôle très important là, dans la vie de nos jeunes.
Mm-hmm. Comment doivent procéder les parents qui souhaitent inscrire un de leurs jeunes à ces camps, que ce soit camp de jour, que ce soit camp de vacances?
Bien, en fait, nous, les inscriptions se terminent le 3 juin, mais il y a toujours moyen de nous appeler tout d'un coup qu'il resterait une place. On va vous prendre avec plaisir. Donc, la façon la plus simple, c'est d'aller sur notre site Internet, www.aveugle.org. Dans le coin à droite de notre site Internet, il y a vraiment un calendrier d'été. En cliquant là-dessus, il y a toutes les informations pour s'inscrire, les coordonnées, etc., comment rentrer. Là, on peut tout s'inscrire via Internet. Sinon, bien, c'est possible de contacter aussi ma collègue Jacinthe Langlade, qui est coordonnatrice des loisirs. Son numéro de téléphone, c'est le 514-259-9470, poste 29. Son courriel, Jacinthe, à commercial, aveugle, avec un S.org.
C'est quand, c'est quand d'été, puisqu'il y a tout cet accompagnement spécialisé, il y a beaucoup d'activités, de l'activité de plein air qui est en soi parfois coûteux.
Oui.
Est-ce que l'accessibilité au camp au niveau financier, comment ça se passe?
Bien, en fait, on ne veut pas que ça coûte plus cher aux parents parce que leur enfant a un handicap. Donc, souvent, on va prendre en charge l'accompagnement et le transport parce que c'est sûr que nous, nos moniteurs, là, dès le moment où les jeunes mettent le pied jusqu'à l'activité, bien, on est là pour les accompagner. Donc, nous, grâce à plein de demandes financières qu'on fait dans l'année, on finance ça. Et pour les parents, on veut que ça soit un coût là, semblable aux autres camps de jour, camps de vacances. On peut parler de 130 $ par semaine pour les camps de jour, 250 pour les camps de vacances enfants, 375 pour ados. Grosso modo, là, ça revient à 25-50 $ par journée, ce qui est quand même raisonnable, surtout que ça comprend le moniteur, l'activité, l'équipement, l'accès, le transport. Quand on parle de camp de vacances, bien, le dodo, la nourriture, etc.
Oui, bien, ça se situe dans les prix qu'on voit fréquemment pour plusieurs camps de vacances, oui. Adaptés ou non. En terminant, on a évoqué le fait qu'il pouvait y avoir des bénévoles jumelés aux moniteurs.
Oui.
Comment on fait pour devenir bénévole pour un camp d'été?
Oui, bien, que ce soit bénévole ou moniteur, c'est sûr que nos moniteurs sont déjà sélectionnés parce que là, l'été s'en vient, mais ça serait de contacter ma collègue Jacinthe. Donc, je vous redonne le numéro 514-259-9470, poste 29. 514-259-9470, poste 29. Les moniteurs, bien sûr, l'été sont plus là à temps plein, mais les bénévoles, des fois, c'est facile de juste venir peut-être une semaine si on en a besoin. Puis surtout, c'est le temps là, pour l'automne ou même pour l'hiver. Si vous êtes intéressé à faire partie de la Fondation, cet automne, on va avoir besoin de personnes. Puis l'hiver, on a toujours besoin de guides ou de moniteurs en ski, en snow, etc.
Parce que les sorties se poursuivent aussi oui. à l'hiver, évidemment. Et ça peut être une bonne façon de découvrir l'univers du camp de jour oui. et pour peut-être l'année prochaine être oui. parmi l'équipe de moniteurs. Merci beaucoup, Sarah Rouleau, relationniste et responsable des bénévoles à la Fondation des aveugles du Québec. Merci d'avoir été avec nous tout au long de la saison.
Ça fait plaisir.
C'est très agréable et on vous souhaite une très belle saison.
Bien, merci.
J'ai ses dents, des palettes de cornflakes, des raisin brands, des hot dogs, des bangs la fin de semaine. Des barouettes de Cheerios sur le bout de mon nez, j'aurais des bouts d'inostas se demander. Viens pas me faire craindre, t'as pas pêché que ça marche de même en plein été. Le dette du grec qui se laisse faire, jusqu'à temps qu'il se tente, qui en parle à ma mère. C'est bien une chance qu'elle ne voudrait pas te voler, elle avait tout le temps mieux que ça dans le frigidaire. Ça trime mes deux personnes chez moi, moi je virais des cocanes en 4 ans dessous. Pas de sacoche, je préfère qu'elle ait au corps et c'est loué avec les vieux sous. Le beau printemps de mes beaux 12 ans, pas de porte de poche poignante les dents, mais t'es loin d'être un homme quand t'entends. Deux, trois blacks qui disaient, what you looking at, son? Y'a rien de trop lourd à part la presse, il fallait chorer, on a l'école, ça presse. À l'avant de chez nous, c'était beau, ça revient, mais la ruelle en arrière était un peu moins claire. Yeah, baby, Haïti, à quoi qu'on joue les amis? La vieille polo, ben un chaudron, t'es pas du genre à glander à maison. Y'avait rien de mieux à faire. Les toilettes pis les retenues. Je n'ai plus, je n'ai laissé pendant les études. J'ai plus que la sève à mon côté pis part dans le sud. Les brins bateaux pas contre le poêle au pâte. Les beaux gens qui pop, les boutons qui éclatent. Pas gros dans tes shorts, ça commence à te gosser. Dans tes caleçons, tu commences à te poser. À la question sur l'état, t'enseigne à Jésus que ça a de l'air bon. Prends la distance avec le plancher, t'avais tout l'air d'une gang de beaux motés. À chercher un style à la fin des 80s entre Mario Pelchia pis Sexy Woman de Banshees. Y'avait rien de mieux à faire.
Bernard Adamus, en voiture, mais pas de char, toujours pratique, tiré de son album Sorel Soviet So What, paru l'année dernière et on pourra le voir au Francofolie prochainement. Catherine Blanchette-Dallaire, bonjour.
Salut.
Entrepreneur et militante pour l'accessibilité universelle, bienvenue dans nos studios. On va parler aujourd'hui des journées accès découverte. C'est quelque chose que tu as mis sur pied en 2013 et qui, heureusement, se poursuit d'année en année.
Oui, effectivement. On a fait la première édition en 2013. C'était sur Sainte-Catherine, ouest, tout près de la Place des Arts. Puis à ce moment-là, on avait appelé ça la marche exploratoire pour l'accessibilité. Ensuite, en 2014, on a fait Laval et Montréal. Et là, à ce moment-là, on avait migré pour la marche pour l'accessibilité. Et là, en 2015, on s'est dit, bon, ça prend un nom un peu plus catchy, un peu plus... parce que là, c'est plus la marche, parce que là, on avait comme trois villes l'année passée. Donc, c'est devenu les journées accès découverte. Et oui, ça prend de l'expansion, on en est très heureux.
Les journées accès découverte, on parle de, bon, ça a changé de nom, marche exploratoire tout d'abord, amenée par l'organisme que tu as fondé, l'entreprise que tu as fondée, onroule.org.
Oui.
Onroule qui justement est un répertoire de lieux, entre autres de commerce accessible et accessible à différents points. Et l'objectif de ces journées accès découverte, c'est de répertorier ces nouveaux commerces accessibles.
Oui, parce que on dit souvent que Montréal n'est pas pourrait être plus accessible. On va dire ça comme ça là, qu'on pourrait. C'est sûr qu'on peut toujours faire des efforts pour le devenir encore davantage. Mais à ceci, moi, je réponds toujours qu'il y en a une accessibilité, mais qu'on ne la connaît pas. Parce qu'il y en a des commerces qui sont accessibles, il y en a qui font des efforts, il y en a qui ont fait des rénovations, il y en a qui le sont partiellement, il y en a qui le sont totalement. Il y en a qui le sont à vos risques et périls à 1h du matin quand tu te cherches une toilette, mais que tu dis « gars, c'est pas grave, j'en ai besoin ». Donc, notre but, en fait, c'est de les répertorier, de les connaître et à ce moment-là, de les mettre en valeur, de les valoriser pour que les autres aussi puissent découvrir ces commerces-là.
Mm-hmm.
Pour qu'on puisse utiliser ce qui est déjà présent, en fait, comme accessibilité, là.
Qui participe à ces journées accès découverte?
En fait, avec le temps, ça s'est élargi. La première édition, on avait des personnes qui avaient un problème de mobilité physique, donc fauteuil roulant. On avait également une personne qui avait une déficience visuelle. Et puis, l'année passée, ça s'est vraiment élargi, là. Donc, si je regarde juste à Laval, on avait des gens en fauteuil roulant, on avait des personnes avec des troubles d'orientation, des personnes avec des déficiences intellectuelles, et on avait même une femme avec son pouce-pouce et son bébé. Donc, on a vraiment, on a maintenant tout type de limitations, en fait, qui participent à ça, parce que l'accessibilité, là, inclut vraiment beaucoup plus large que la simple limitation physique, là.
Tout à fait. Quels sont les organismes partenaires de ces journées, parce qu'il y en a eu, qui vous ont appuyé avec ça au cours des années?
Oui. L'année passée, en fait, ça fait 3 ans maintenant qu'on travaille avec l'Europe à Laval. Donc, à Laval, ça fait 3 ans là, qu'on organise les activités avec eux. C'est vraiment, vraiment intéressant. Là, ils nous aident beaucoup de ce côté-là. À Montréal, on était beaucoup avec Vie Autonome ces dernières années. En 2014, on l'avait fait en collaboration avec la communauté de pratique du mâle Alexis Nion. Donc, à ce moment-là, on avait eu Kérol, on avait eu Altergo, on avait même eu la commission des droits de la personne qui avait partagé des documents en lien avec les chiens guides et d'assistance. Donc, c'est très intéressant. Cette année, on essaie de s'associer peut-être à l'INBL pour sensibiliser les commerçants sur l'accessibilité des sites Internet,
mm-hmm.
Qui est un autre élément, là. Donc, ça, on discute actuellement là, pour l'intégrer aussi.
Tout à fait. C'est un enjeu auquel on pense moins fréquemment parce qu'il est justement en ligne, il est
oui.
Virtuel, alors qu'on se consacre beaucoup à l'aspect architectural des lieux.
Tout à fait.
Quels sont les critères que vous avez, vous partez, je présume, avec une liste de choses qu'on doit retrouver chez, entre autres, les commerçants que vous allez visiter?
En fait, une liste de choses qu'on doit retrouver plus ou moins.
Dans
le monde idéal. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un pré-repérage. Donc, on va voir tous les commerces qui n'ont pas de marche à l'entrée. Ensuite, on les appelle pour avoir leur autorisation pour pouvoir les visiter le jour même. Souvent, ça permet d'aviser le gérant qui est présent le jour même pour discuter avec les participants. Et à partir de là, par contre, on va utiliser les critères. Est-ce que c'est un plein pied? Est-ce qu'une rampe d'accès? Est-ce qu'il y a de l'espace libre en dessous du lavabo, une barre d'appui dans la toilette? Est-ce qu'il y a un terminal de paiement amovible? Des choses comme ça. Par contre, dans la thématique dont on roule, c'est pas parce que ces indices-là sont pas présents qu'on va pas quand même répertorier le commerce. Notre seul critère obligatoire étant l'absence de marche.
Mm-hmm.
Mais à partir de ça, on va cocher ce qui s'applique et relayer l'information adéquate là, sur le site.
En général, qu'est-ce que vous avez découvert à travers les dernières marches que vous avez faites, les dernières journées accès découverte que vous avez faites? Est-ce que la majorité des endroits que vous visitiez avaient somme toute une accessibilité partielle, au moins, ou...
Ça dépend. Je dirais que c'est un défi. Par exemple, à Montréal, on va faire la Notre-Dame dans le coin du marché Atwater. Il y a des sections dans Notre-Dame que ça servait à rien d'y aller, dans le sens que j'avais pas une assez grande concentration de commerce, qu'il n'y avait pas de marche à l'entrée. Donc, il y a des secteurs de rue, j'étais comme « Ah! » et non, ça ne sera pas ici.
Pas cette année.
Parce que les gens vont faire 3 km pour trouver une quantité de commerce intéressant. Par contre, il y a d'autres secteurs qui le sont davantage. Et ce que j'ai trouvé toujours intéressant, c'est de voir la fierté des commerçants qui ont fait des améliorations, tout ça, c'est leur fierté de pouvoir présenter ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont amélioré, leur accessibilité. Moi, j'ai des commerçants là, qui vraiment veulent être présents, parlent, ils sont fiers de le faire. J'en ai d'autres qui sont comme, se sentent un peu coupables parce qu'ils se disent « Ah, je sais, on pourrait être plus accessible, mais on essaie de faire ça. » Donc, c'est de voir la bonne volonté des commerçants que je crois que souvent, on oublie beaucoup. Qu'il y en a beaucoup de commerçants qui veulent, qui sont sensibilisés, mais que pour différentes raisons, ils ne peuvent pas nécessairement là, faire de grosses rénovations, mais qui veulent et qui sont fiers de parler de leurs efforts de ce côté-là. Là.
Les journées Accès Découverte, donc c'est la 4e édition cette année. Les prochaines journées ont lieu en juin.
En juin, le 2 juin à Sherbrooke pour la 2e année, le 3 juin à Laval pour la 3e année et le 6 juin à Montréal pour la 4e année. Et on va peut-être essayer d'aller un petit peu sur la rive sud dans le coin de Saint-Hyacinthe pour faire une 4e journée. Là, on est peut-être un petit peu dernière minute pour celle-là, mais on va essayer de sortir là, et d'aller voir qu'est-ce qui est accessible en dehors des grands centres.
Comment on fait pour participer si c'est quelque chose qui nous intéresse, si on a soit une limitation fonctionnelle, soit tout simplement qu'on est sensibilisé à cette question de l'accessibilité?
Il y a un site Internet que j'ai construit qui est dédié aux journées Accès Découverte. Donc, c'est www.journée-accès-découverte.org. Le formulaire est en ligne, donc les gens peuvent s'inscrire dès maintenant en tant que participant, en tant qu'accompagnateur ou en tant que bénévole, parce que là, on rentre sur la série des appels pour appeler les 160 commerçants qu'on a sur notre liste. Donc, on peut avoir besoin d'aide aussi de ce côté-là là, pour faire tout le travail en amont. Des journées pour contacter les commerçants.
Tout à fait. Vous êtes là-dedans actuellement, en
oui.
fait,
là,
parce que c'est dans 2 semaines. Bon, peut-être deux semaines et demie, 3 semaines. Donc, et dans plusieurs villes à la fois, ça se déploie.
Ça se déploie.
Comme initiative. Avez-vous donné le goût à d'autres organismes dans d'autres municipalités de faire la même chose?
Oui, je sais que Québec sont très actifs de ce côté-là. Le CAVI est très, très actif. D'ailleurs, au début, je voulais aller à Québec, mais comme ils sont très actifs dans ce coin-là, je leur laisse, tu sais, je veux dire, ils le font alors, donc tant mieux pour eux. Le Québec sont très actifs. Je sais que dans le coin de Trois-Rivières aussi, Belle-Mauricie est très actif au niveau des commerçants de ce côté-là. Donc, moi, je trouve ça superbe là, de voir que les organismes... vont de l'avant, sont actifs, rencontrent les commerçants, font de la sensibilisation. Moi, je trouve ça merveilleux. Là.
Mm-hmm. Au lieu de passer toujours par un intermédiaire représenté parfois par le gouvernement, bon, via différentes instances, là, on y va directement. Ça permet peut-être de sensibiliser davantage lorsqu'on a le contact humain avec, oui. avec le commerçant.
Oui, puis c'est souvent, en fait, dans les journées que j'ai fait, qu'on rôle organisé, souvent les participants étaient heureux d'avoir participé parce que ça leur donnait l'occasion d'enfin, pas parler d'égal à égal, mais un peu, oui, parler d'égal à égal, parce que là, ils ont, comme nous, on les appelle à l'avance, les commerçants, les gérants sont souvent sur place, ils sont sensibilisés, ils savent qu'ils vont rencontrer des gens avec diverses limitations. Donc, ça leur donne l'occasion d'expliquer c'est quoi leur problématique, c'est quoi leur handicap, c'est quoi tout ça. Donc, les participants ont toujours été vraiment heureux d'avoir pu exprimer ouvertement c'était quoi leur problématique et d'en parler là, tout à fait respectueusement.
Mm-hmm, effectivement, et non pas nécessairement passer non plus par des médias, par d'autres systèmes de plaintes et autres qui peuvent parfois peser lourd.
Bien, c'est parce que souvent, en fait, c'est parce que quand on passe par les médias, c'est que souvent on va généraliser. Alors que les commerçants, il y en a qui, je le cacherai pas, il y en a qui en ont rien à faire, dans n'importe quelle couche de société, dans n'importe quel domaine, dans n'importe quelle cause, il y a toujours des gens qui ne se sentent pas touchés par ça. Donc, dans les commerçants aussi, il y en a qui, bon, ne sont pas intéressés par l'accessibilité. Mais de dire, mais de généraliser via les médias, c'est là qu'on rentre dans la généralisation. Et là, tous les commerçants qui font des efforts, qui sont sensibilisés, qui veulent avoir cette clientèle-là, on n'en parle pas et on les met dans la même boîte.
Justement, on parle de clientèle. Souvent, historiquement, les personnes handicapées ont été considérées beaucoup comme étant dépendantes de leurs proches et donc n'ayant pas nécessairement l'autonomie financière aussi pour sortir, consommer, acheter des biens, acheter des services. Est-ce que vous croyez que dans les dernières années, ce regard-là a changé et qu'on comprend que les personnes en situation de handicap sont aussi des consommateurs qui veulent venir à notre commerce?
Je crois que la notion d'accessibilité aussi s'élargit. On ne voit plus l'accessibilité uniquement liée aux handicaps les plus lourds, parce qu'on va être bien honnête, quelqu'un qui a un handicap très, 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 très lourd a de fortes chances qu'il ne pourra pas travailler, donc des ressources financières limitées. Mais si on ouvre la notion du handicap ou de la limitation beaucoup plus large, là, on va chercher une clientèle beaucoup plus active, qui a plus de moyens. Je ne le cacherai pas, la nouvelle génération là, de jeunes personnes handicapées sont alertes, sont sur les médias sociaux, ils bougent, ils travaillent, ils veulent sortir. Donc, c'est intéressant aussi. Là, on a toutes les baby-boomers aussi qui sont là, là.
Vous rassemblez beaucoup de gens. Félicitations pour cette initiative. Catherine Blanchette-Dallaire, fondatrice de onroule.org et aussi initiatrice de ces journées Accès Découverte. Bon succès pour l'année 2016.
Merci.
Merci. C'est ce qui met fin à notre programme. Je remercie mes invités, Catherine Blanchette-Dallaire, Sarah Rouleau de la Fondation des aveugles du Québec, Julien Racicot, Fondation Adapte-toi. Et on avait commencé avec Anouk Lanouette-Turgeon de Parents jusqu'au bout. La semaine prochaine, on n'est pas là lundi, on revient mardi à l'émission. Je remercie Jean-Sébastien Laliberté et Christiane Campagna qui sont mes collègues à l'émission. C'était Ça vaut le détour. À bientôt!